France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. Nous ouvrons une semaine en majeure partie consacrée aux initiatives qui prennent place dans le département de la Moselle, avec tout à l'heure le bon exemple d'évitement du gâchis alimentaire par la création d'une conserverie locale, c'est son nom, à Metz. Cette conserverie qui permet de réduire les 2 tonnes de fruits et légumes jetés chaque jour dans la métropole de Metz. 2 tonnes de fruits et légumes jetés chaque jour dans la métropole de Metz a pour principe de donner un pot de produits transformés à une association caritative pour un pot vendu. Ce n'est pas un hasard si l'unité de transformation s'est installée dans le nouveau immense tiers-lieu de Metz, baptisé Blida avec 3 i, vous allez comprendre pourquoi, où nous nous rendons tout de suite.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
William Schumann, bonjour.
Bonjour.
William, j'avais eu le plaisir de vous rencontrer au mois de juillet à Metz. Et vous nous aviez parlé de ce tiers-lieu exemplaire, voire unique en France. Tiers-lieu, vous dites, d'inspiration, d'innovation et d'intelligence collective de Metz. Pour cause, d'abord, il couvre 30 000 mètres carrés, l'ancien terminus des transports en commun,
oui,
de la région Messine.
Absolument. Oui, alors je ne sais pas si nous serons ou si nous sommes un lieu exemplaire. Faut souhaiter que ce lieu s'inscrive dans un réseau plus large de tiers-lieux et qu'il essaie de faire de son mieux.
Mmh.
Mais oui, exemplaire, on verra quand effectivement les travaux que nous allons engager dans 6 mois attireront le public que j'espère tant dans cet espace.
C'est-à-dire que votre objectif est de couvrir et d'animer les 30 000 mètres carrés disponibles.
On ne va pas, en réalité, il y a effectivement 28 000 mètres carrés. Il est impossible de tout couvrir dans un premier moment. Ça représente une réserve foncière pour d'autres projets possibles qui s'inscriraient dans le cadre de Tessin Blida. Mais c'est une bonne partie, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est une bonne partie quand même qui va être travaillée dans le cadre de Blida 2020.
Mmh. C'est un énorme investissement hors Blida, parce qu'on est avenue de Blida à Metz.
Oui.
Et Blida avec 3 i pour inspiration, innovation et intelligence collective. Et ça, c'était quand même une volonté municipale d'investir le lieu.
Ah, oui, c'est une volonté du territoire, de la ville de Metz, de la métropole, aujourd'hui grand acteur aussi la région Grand Est. Il s'agit de construire un lieu, je reprends votre ou notre expression, exemplaire, dont la finalité reste la création de richesses, faire en sorte que les intelligences locales ne partent pas ailleurs, faire en sorte que tous ces étudiants qui se forment à Metz, et pas uniquement à Metz, puissent trouver à s'épanouir, en particulier dans la dimension des start-up sur notre territoire et plus précisément sur TCM Blida. Oui.
Mmh. Est-ce que c'est aussi le résultat d'une forme de compétition, de concurrence entre les métropoles qui veulent avancer des talents et puis lancer des initiatives et doubler les autres ?
Certainement. Mais j'allais dire une concurrence, je préfère parler d'une saine émulation. Les différentes métropoles ont un tropisme, se focalisent sur une certaine dimension. La métropole Messine, c'est Arentech. Hein. Donc c'est le croisement, j'allais presque dire, séculaire entre la dimension artistique et la dimension technique.
Mmh.
Donc Arentech, ça permet de croiser effectivement une forme de modernité, on va dire ça comme ça.
Mmh.
Et Blida souhaite être à la pointe de cette modernité-là.
Ouais. Et il va falloir quand même apporter quelques précisions, parce que le lieu se veut pôle artistique, numérique et
oui,
à la fois économique. C'est quand on parle de Lorentech ou de French
oui,
Tech, du Sillon Lorrain...
Absolument, on se perd dans ces acronymes.
Absolument.
Mais je participe pas tellement de cette novlangue, qui est d'ailleurs de moins en moins une novlangue, mais qui est plutôt une ancienne langue.
Oui.
Et je dois dire que moi-même, j'ai l'impression de me retrouver aussi dans des circuits administratifs qui font que je me retrouve pas. Et je dirais même que c'est le grand public qui parfois ne se retrouve pas. Et c'est vrai que un tiers-lieu, ça reste encore très énigmatique pour les personnes qui ne sont pas ou qui ne travaillent pas à l'intérieur de ces espaces-là.
Ouais. Et vous, justement, William, vous insistez en disant, on ne veut pas être simplement un lieu d'hébergement d'entreprise, que
oui,
vous faites déjà,
oui,
mais un lieu d'animation
oui,
et un lieu oui, qui est offert aussi aux habitants.
Absolument. Deux choses. Bon, ça devient chez moi presque un élément rhétorique et presque un peu compulsionnel que de rappeler que l'IDA n'est pas simplement un hôtel d'entreprise, parce que c'est très bien les hôtels d'entreprise, mais il n'est pas nécessaire d'avoir l'IDA pour qu'il y ait des hôtels d'entreprise. Mais ça doit être aussi un lieu de culture, ça doit être aussi un lieu de transmission du savoir, ça doit être aussi un lieu où on a du plaisir à se retrouver. C'est pour ça qu'un des points importants dans le prochain BIDA sera par exemple un restaurant, et un restaurant qui sera d'accès, je le souhaite, assez facile, aisé économiquement, qui respectera les circuits courts et qui sera ouvert au plus grand nombre du territoire, en tout cas de la ville et au-delà de la ville.
Vous en êtes où de l'aménagement du lieu ?
Bah écoutez, là, on a commencé à faire des sondages, parce que c'est un lieu, vous rappeliez effectivement que c'était un lieu qui hébergeait en particulier les bus, donc il y a de la pollution. Cette pollution, nous avons réussi à la déterminer et à passer cet obstacle-là. Le premier coup de pioche devrait se faire fin du premier trimestre, début du second trimestre 2020.
Très bien. L'adresse est Blida, avec 3 i, je rappelle. Blida.fr, la page Facebook, Blida Metz. Merci. Merci, William.
C'est moi qui vous remercie.
France Inter, carnet de campagne.
Cette semaine, j'aurai de nombreux coups de pouce à vous faire partager les jours prochains, mais avant cela, je vous annonce la tenue du 231e Café Contact de l'Emploi, demain à 9h à Neuilly-sur-Marne. Ce dispositif que nous soutenons quasiment depuis sa création, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce rendez-vous qui mérite de se répandre partout, consiste à inviter spontanément des personnes en quête d'emploi, rencontrer un employeur potentiel autour d'un café dans un lieu public. Bien avant la mode des job dating qui sont speed comme les speed dating, le concept inventé par Paul Landowski, lui-même ancien chômeur, est de créer une ambiance conviviale sans prélecture pénalisante éventuellement d'un CV afin de permettre à des chefs d'entreprise de recruter sur le champ des compétences recherchées. Demain, le rendez-vous est pris avec 20 employeurs qui viennent s'attabler au bar de la patinoire de Neuilly-sur-Marne avec 100 postes à pourvoir immédiatement dans d'innombrables secteur. Si nos annonces régulières, et Paul Landowski nous l'assure, activent l'affluence à ces rendez-vous, nous aimerions aussi interpeller les communes et les départements qui peuvent s'inscrire dans ce processus éminemment humain, comme c'est le cas ici, pour demain, avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et les responsables de l'insertion de la ville de Neuilly. Donc c'est demain à 9h Neuilly-sur-Marne. Le site c'est cafécontactemploi.fr. Lucie Noël, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, Lucie, c'est un peu Noël avant l'heure, si je peux me permettre. Parce que vous nous faites le cadeau de diriger une conserverie locale, une conserverie. Il y en a de plus en plus. La vôtre a une très très belle dimension. Elle existe depuis 2017, fin 2017. Les invendus alimentaires, au lieu de les gâcher, de les jeter, les détruire, sont transformés en bocaux, en jus, confitures, soupes. Et ils sont proposés régulièrement à la vente, mais aussi aux associations caritatives. Et c'est une œuvre indispensable. Alors Lucie, cette conserverie est née de l'envie de Manon Carr, ingénieur en gestion. Vous avez suivi la même formation que Manon.
Exactement. On vient toutes les deux d'une école d'ingénieurs en gestion de projets innovants. Et Manon était déjà présidente de l'association Partage ton frigo. Et c'est dans le cadre de cette association qu'elle a développé le projet de la conserverie locale. Elle voyait qu'elle pouvait facilement mobiliser 200, 300 kilos de fruits et légumes invendus pour faire des gros discos soupes. Donc ce sont des ateliers un peu anti-gaspi où on apprend aux gens à revaloriser des fruits et légumes invendus. Et elle s'est dit, c'est bête que ces produits-là ne soient pas valorisés. Donc on va essayer d'en faire quelque chose. Et c'est là que lui est venue l'idée d'en faire des conserves pour après les redonner à des personnes en état de précarité.
Ouais. L'idée pour équilibrer le fonctionnement, c'est 2 pots vendus, 1 pot donné.
Voilà, globalement c'est ça. Nous, notre but, c'est pas de dépendre des subventions. Donc on a essayé de développer un modèle viable sur le long terme. Donc on loue notre atelier aux producteurs locaux parce que c'était un outil qui n'existait pas sur le territoire. On fait aussi de la transformation à façon, c'est-à-dire qu'on transforme pour les producteurs locaux. Ils nous donnent leurs fruits et légumes et ils repartent avec leur bocal. À côté de ça, on vend en circuit court, donc dans des petites épiceries locales, nos produits. Et le reste part pour le don à des personnes en état de précarité alimentaire.
Oui. On aime bien l'idée de ce modèle hybride où les producteurs trouvent un outil de transformation, mais ça a une telle résonance que des productions qui avaient été abandonnées sont relancées grâce à la conserverie.
Bah oui, parce que quand les producteurs ne trouvaient pas forcément d'exutoire, c'est un peu bête de produire pour après savoir qu'on ne pourra pas tout vendre et tout écouler. Et après, en tant que producteur, on n'aime pas savoir que nos produits partent à la poubelle. On a même l'histoire d'un producteur qui, pour la première fois, avait essayé de faire des pâtissons et il s'est retrouvé avec une quantité de pâtissons phénoménale et il est venu nous voir. Est-ce qu'on pourrait pas ensemble élaborer des recettes pour essayer de donner un peu plus de durée de vie à ces pâtissons? Et ensemble, on a créé une confiture de pâtissons à la badiane et un velouté. Donc après, c'est vraiment une aventure aussi avec les producteurs pour être un outil du territoire.
Mmh. Les chiffres de déchets, enfin plutôt les nombres, parce que là on parle de nombres, sont aberrants. 2000 kilos, 2 tonnes de fruits et de légumes sont jetés chaque jour dans la métropole de Metz.
Environ. Alors en fait, comment ça se passe? C'est les supermarchés, ils se débarrassent des fruits et légumes qu'ils savent qu'ils ne vendront pas et ils les donnent à la Banque Alimentaire. Donc c'est une association d'utilité publique qui existe dans chaque région.
Absolument.
Donc, la Banque Alimentaire va récupérer environ 2 tonnes par jour de fruits et légumes. Elle fait un travail de fou, elle trie les fruits et légumes pour après les redistribuer à des associations d'aide alimentaire. Et nous, on intervient là, c'est-à-dire qu'on prend des légumes qui sont trop abîmés pour être donnés à des associations, un peu abîmés mais pas trop pourris.
Mmh, voilà. Alors, il fallait un lieu, il était tout trouvé à Metz avec le grand tiers-lieu du TCRM Blida. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a de plus en plus d'activités qui se mettent en place grâce à ce lieu immense. Ensuite, il fallait les moyens financiers, les moyens humains. Alors, vous avez gagné une levée de fonds de 150 000 euros, formidable, mais les moyens humains, vous les avez trouvés comment?
Alors, on travaille pour toute la partie dons. On a vraiment beaucoup de bénévoles qui nous aident parce que le projet plaît beaucoup, il mobilise beaucoup. Donc, chaque semaine, on fait une transformation et il y a 4-5 bénévoles qui viennent nous aider. Donc, il y a la partie bénévole. Après, on a une personne en service civique avec nous qui nous aide beaucoup pour tout ce qui est animation. On s'est vite rendu compte qu'on avait besoin de tous les jours à l'atelier de quelqu'un pour transformer. Donc on a un chef d'atelier maintenant. Après, on a Manon qui est présidente bénévole, mais elle passe plus de la moitié de son temps dans l'association. Donc sans elle, le projet ne fonctionnerait pas. Et puis moi, je suis plus en tout ce qui est gestion de l'association en elle-même.
Et vous avez développé votre propre marque?
Voilà, c'est ça. On vend nos produits sous le nom La Conserverie Locale dans des petites épiceries locales à Metz.
Et le site, c'est laconserverielocale.fr, page Facebook, même adresse, La Conserverie Locale. Merci.
Voilà.
Merci beaucoup, Madame Noël, Mère Noël. Merci.
Merci à vous.
Bonne journée. Un petit rappel pour les prochaines dates et les lieux traversés en décembre. La Sarthe, le Val-de-Marne, le département des Landes, et celui de la Gironde. Merci pour vos messages. Continuez à nous écrire. Vic-sur-Seille en Moselle, Nicolas Stoufflet, le jeu des 1 000 euros.